J'ai tout mis mon PowerPoint sur la clé USB et devant tout ce calme-là, j'ai laissé la clé USB dans l'ordinateur. Donc, pas de PowerPoint ce matin. J'avais demandé la banderole « Je suis ». Je suis Gédéon. Et ce matin, on va être obligé de fonctionner sans PowerPoint. Et je m'en excuse, mais on va essayer de faire quand même qu'est-ce qu'il y a à faire. Vous connaissez, pour avoir fait les trois ou quatre premiers messages de « Je suis », c'est une identification au personnage biblique que l'on voit. S'identifier à, c'est-à-dire « Je suis Gédéon, je peux être aussi la même chose que qu'est-ce que Gédéon était. Je peux vivre les mêmes choses, pas exactement, les Madianites n'existent plus, mais je peux vivre les mêmes choses que Gédéon a vécu. Et je peux agir de la même manière que Gédéon a agi. Je peux faire ça dans ma vie. » Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a quelques années, un homme parlait à mon épouse, puis il disait, cette personne-là, il disait, tu n'as pas beaucoup de connaissances. Il y a quelques années, Hélène s'est développée beaucoup depuis, mais il y a quelques années, elle disait, tu n'as pas beaucoup de connaissances, mais l'avantage que tu as, c'est que tu appliques ce que tu connais. Voilà le vrai chrétien. Ce n'est pas nécessaire d'avoir énormément de connaissances, mais le peu de connaissances que nous pouvons avoir, nous l'appliquons dans nos vies. Nous en prenons acte et nous disons, je ne dois pas agir comme ça, mais je dois agir d'une autre manière. Et c'est ça qui est important. Dans ce que l'on comprend, dans le thème « Je suis Gédéon », j'aimerais commencer avec une citation de M. Decker, Maurice Decker, qui était venu ici il y a plusieurs années, là, que je me rappelle, j'étais venu l'écouter, et c'est un homme qui m'a beaucoup impressionné. Il disait, « Il n'y a pas de grands hommes de Dieu. Les grands hommes de Dieu n'existent pas. Il n'y a que des hommes ordinaires avec un grand Dieu. Nous sommes tous des hommes ordinaires. Mettez le nom que vous voulez. Des grands hommes de Dieu. Ce sont tous des hommes ordinaires qui ont utilisé un grand Dieu, avec un grand Dieu. Dans le texte que nous allons voir, se trouve dans le livre des Juges. Vous voyez? Et dans le livre des Juges, il y a un verset que je voulais vous mentionner qui est d'après moi, peut-être pas d'après tout le monde, mais d'après moi, c'est le verset clé de cette histoire. Dans le livre de Juges, et l'histoire de Gédéon se fait de Juges 6 à 8, okay? Et dans le livre de Juges, au chapitre 7 et au verset 2, « L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Voilà le but de Dieu dans son intervention. Dieu voulait avoir la gloire. Le livre de Juges se retrouve au tout début lorsque le peuple prend possession du pays. Les nouvelles normes, maintenant, c'est à la terre promise, nous devons agir de cette manière-là. Avant, nous étions dans le désert. Maintenant, dans la terre promise, les choses changent. Mais des choses qui restent toujours les mêmes, et Dieu doit être en premier. Il est important de comprendre pourquoi que Dieu doit être en premier, et le peuple d'Israël n'a pas toujours atteint ce but-là. Mais Dieu revient constamment dans son enseignement à ce que Israël soit mettre Dieu en premier. Et c'est ce que Dieu veut faire à travers ce verset et à travers l'histoire de Gédéon. Gédéon, en gros, un sommaire de Gédéon. Qui était Gédéon? C'est d'abord un homme humble. Dans ses propos, on va le voir à travers son histoire, que c'est un homme qui était très humble. Il ne se voyait pas plus haut qu'il était. C'était aussi un homme obéissant. Lorsque Dieu demandait quelque chose, il le faisait. C'était les caractéristiques de Gédéon. Maintenant, cette histoire-là de Gédéon, on doit bien comprendre que ce n'est pas l'accomplissement d'un homme. ce n'est pas ce que l'homme a développé, et ainsi de suite. C'est plutôt ce que Dieu accompagne. C'est qu'on voit l'image de Dieu qui fait les efforts pour réveiller son peuple, qui fait les efforts pour accompagner un homme qui veut servir. Et c'est surtout cette action-là que l'on va voir ce matin. On va placer le contexte. OK? Le contexte, c'est que le peuple d'Israël est en oppression auprès des Madianites. Un peuple qui est très connu des Israélites, les Madianites. C'est d'abord, on doit dire, c'est d'abord, ils sont un peu parents. Les Madianites sont venus avec Abraham et Ketura, une femme d'Abraham, et un de ses enfants s'appelait Madian, et il a créé les Madianites. Mais Dieu demande aux Israélites de traiter ce peuple en ennemi. Ils sont dangereux. Ils sont rusés, les Madianites. Ils sont sournois. Moïse, dans Nombre 31, demande au peuple qu'il soit exterminé. Les femmes des Madianites avaient entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité et provoqué la plaie dans l'Assemblée de l'Éternel. Mais les hommes d'Israël ont mal fait leur travail, n'ont pas fait une bonne job, et les Médianites ont survécu. Il est souvent comparé dans Juges 6, on voit, excusez, j'ai fait une erreur, dans Juges 6, il est dit des Médianites qui montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Les Madianites étaient comparés à des sauterelles parce qu'ils se déplaçaient très rapidement. Selon les commentateurs, ils pouvaient faire 100 000 dans une seule journée. Aujourd'hui, 100 000 d'une journée, c'est pas terrible. Sauf que dans ce temps-là, c'était beaucoup. Et on ne pouvait pas les voir venir tellement qu'ils allaient vite. Mais au verset 1, le texte nous dit, dans Juges 6, au verset 1, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » C'est une histoire qui se répète. C'est tout simplement une histoire qui se répète. Et on voit, si vous voulez tourner dans Juges au chapitre 2 et au verset 11, Dieu mentionne ici qu'est-ce qui va se produire. Excusez, j'ai fait une mauvaise juge. 2, 11. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Ils les vendirent entre les mains de leurs ennemis d'alentour. Et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. C'était la vue d'ensemble des juges. Le peuple se rebellait continuellement, allait vers les faux dieux. Ils ignoraient Dieu lui-même et Dieu les ramenait en nommant un juge qui était pour les délivrer. On revient à notre texte dans les Juges au chapitre 6 et on voit que les Israélites crient à l'Éternel. Au verset 7, « Lorsque les enfants d'Éternel crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. » Dieu agit exactement comme on agit avec nos enfants. Lorsqu'on a des jeunes enfants, on dit « Fais pas ça. » Je te l'ai dit, « Fais pas ça. » Parce qu'il va arriver telle affaire, telle affaire. Tu sais ce que je t'ai dit hier? « Fallait pas. » Tu sais, c'est une passée, il ne fallait fais pas ça. Et Dieu revient constamment en disant quelque part, au verset 10, il dit, « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Tu ne m'as pas écouté. Encore une fois. Et Dieu préfère aller à la source du problème au lieu de commencer par les délivrer. « Voici votre faute. » Voici ce que vous avez à changer dans votre vie. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Eh bien, j'envoie quelqu'un qui va vous le dire que vous ne l'avez pas fait encore. Et la suite, Dieu choisit un juge. Il choisit un juge qui va utiliser pour délivrer, comme il est dit au verset 16 de ce qu'on vient de lire, de Juge 2. Gédéon, qui est un homme très ordinaire, Il se considère lui-même comme le moins bien placé pour être un juge. Il ne se place pas en tête de liste. Il ne dit pas quelque part, « Oui, je suis l'homme de circonstance. » Il dit, « Je viens même pas d'une tribu complète, je viens d'une demi-tribu. » Lorsqu'ils sont entrés en terre promise, la tribu de Manassé s'est scindée en deux et la moitié est restée en dehors de la terre promise. Il n'a seulement que rentré la moitié. Il dit, « Je viens d'une famille qui est même négligée. » La famille d'Abiézer était une famille qui n'était pas vraiment bien vue ou qui n'était pas en tête de liste, qui n'était pas dans les plus belles, dans les meilleures. « Et je viens même d'un rang familial inférieur. Je suis le cadet. » Normalement, le premier-né devrait avoir ce qu'il faut, mais le cadet, non. Mais, à vue humaine, il devait sûrement avoir quelqu'un d'autre qui pouvait être juge. Sûrement! Dans son entourage, il y avait sûrement quelqu'un qui était beaucoup mieux placé. Malgré les contestations de Gédéon, Gédéon, au verset 13, il dit, « Ouais, mais l'Éternel nous a abandonnés. » Ça accroche, cette affaire-là. « L'Éternel nous a abandonnés. Il nous a livrés entre les mains des Madianites. » Dieu réaffirmit son choix en disant, « Va avec la force que tu as. » Quelle est cette force que Gédéon avait? On voit au verset... 12, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » La force que Gédéon avait, c'était que l'Éternel était avec lui. Voilà la force qu'il avait. Et l'ange répète, « Va avec cette force que tu as, l'Éternel est avec toi. » Dieu a placé son choix. Il n'a pas regardé à la valeur de la personne, mais il a regardé à ce qu'il pouvait faire à l'intérieur d'une telle personne. Parfois, il n'est pas nécessaire d'avoir accompli de grandes choses pour obéir au Seigneur. Les simples petites choses, Dieu les voit. Dieu peut faire de Gédéon, dans cette position-là, contre toute attente, un valeureux guerrier. Et ça me faisait penser à une étape dans notre vie, comme dans celle de Gédéon, qui est important de comprendre la présence de Dieu dans nos vies. Non pas de la ressentir. Vous savez, on peut ressentir les choses, mais ce n'est pas parce que je ne ressens pas la présence de Dieu que Dieu n'est pas là nécessairement. Ce n'est pas une question d'émotion. « Ah, je sens que Dieu est avec moi. » Non, je ne le sens pas que Dieu est avec moi. Je le sais. Je sais que Dieu est avec moi. Ce n'est pas une question de sentiment, mais c'est une question, c'est un fait. Notre valeur propre est en deuxième. Ce qui compte, c'est ce que Dieu accompagne ses enfants. C'est le Seigneur Jésus qui disait lui-même, « Je suis avec vous tous les jours. » À chaque fois que je me lève le matin, je peux savoir que Dieu est avec moi, même si je ne le sens pas. même si c'était une journée affreuse, même une journée triste, ou une journée très joyeuse, remplie de bénédictions, Dieu est avec moi. Si vous allez sur Facebook, vous pouvez voir une série de témoignages qui disent « Je suis deuxième ». Je ne sais pas si vous avez vu ça. Si vous allez sur Facebook, vous voyez ça. Je suis deuxième. Je vous invite à aller voir. Il y a des beaux témoignages. Et pourquoi qu'il est deuxième? Parce que Dieu est en premier. Quelle est l'importance de réaliser avec notre intelligence que Dieu est avec nous, que Dieu est en nous? J'ai vécu récemment deux expériences simultanées, même temps. La première, difficile. Ça m'a empêché de dormir. Ça m'a empêché de... ça tournait dans ma tête, puis je déprimais pas, là, mais je trouvais ça triste. Je trouvais ça difficile à vivre. La deuxième, c'est quelque chose où c'était facile, où c'était le confort, où c'était... j'étais vraiment bien. Là. C'était dans une place de luxe. Ou ce que j'aurais même pas espéré penser un jour y être, c'était très bien. J'avais ce que je pouvais demander, je l'avais. Mais dans ces deux situations-là, ce qui m'a fait le plus de bien, ce qui calmait mon cœur, autant dans la bénédiction que dans l'épreuve, j'étais conscient de la présence de Dieu dans ma vie. J'étais conscient, je pouvais dire que Dieu est mon Père. Je pouvais dire qu'il ne m'abandonnera jamais. Je pouvais vivre ce que j'avais à vivre avec la force que j'avais en moi. C'est important que chaque chrétien comprenne la présence de Dieu. Je me rappelle un jour, un pasteur d'église qui reprenait un homme qui avait commis l'adultère avec son épouse, mais avec une autre femme. Puis il lui disait, il dit, « Où est-ce que tu penses que Dieu était lorsque tu commettais l'adultère? » Tu es en présence de Dieu parce que Dieu est toujours là. La présence de Dieu est importante. Au verset 17, ça c'est Daniel qui m'a installé ça, hein? Daniel Gagné, ça tient pas. Il s'en va en vacances, on peut l'achaler un peu. Au verset 17, Gédéon demande une preuve. Une preuve, il demande d'être assuré. Il demande une preuve pour savoir à qui il parle. C'est qui me parle, là, vraiment. N'importe qui peut arriver et peut dire qu'il est Dieu. Mais qui va me prouver que c'est Dieu? Après 7 ans d'oppression, de silence, il veut savoir. Dieu les a abandonnés aux Madianites, finalement. Parce que Gédéon est encore dans ce mood-là. Il n'y a pas si longtemps, il était en train de faire du blé dans une tobe au lieu de le faire dans un grand champ. Il avait peur. Et il doit changer ses manières de voir. Il demande, qu'est-ce qu'il va me dire que tu es vraiment Dieu? La situation est difficile. Gédéon veut savoir à qui il s'adresse. Dieu se relève, Dieu se révèle. Dieu se révèle, il ne se cache pas, il dit, voici ce que je suis, et je vais te le prouver. Et il fait faire un sacrifice sur une pierre, sur une roche, et avec le bâton, il touche, et la viande se consume. L'ange de Dieu lui dit au verset 20, « Prends la chair et le pain sans levain, pose-les sur le rocher, répands le jus, et il fit ainsi. » L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main, il toucha la chair et les pains sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu qui consomma la chair et les pains sans levain. Wow! C'est pas n'importe quel homme qui va faire ça. Juste Dieu qui va faire ça. Donc, Gédéon réalise qu'il est en présence de Dieu et il se met à adorer. Et Dieu demande la première chose à Gédéon. Dieu demande une chose. Cette première demande-là de Dieu à Gédéon est la base de la relation. C'est le début. C'est un test d'obéissance sur lequel tout le reste de l'œuvre de Gédéon va dépendre. La destruction des idoles. Au verset 25, Dieu demande... de détruire l'autel qui était à Baal, avec un pieu au centre, et de faire un autel à Dieu. L'unique raison pourquoi les Israélites étaient vaincus par les Madianites, ce n'était pas parce qu'ils n'étaient pas assez nombreux, ils ont vécu finalement. Ce n'était pas parce que les Madianites étaient trop forts. Les Israélites pouvaient être plus forts. Mais Dieu sait très bien, et nous le savons aussi, que ce qui nous éloigne de Dieu, c'est une idole. Les idoles éloignent de Dieu. Et aujourd'hui, on ne fait plus d'hôtel sur la place publique. Je n'ai pas vu ça au centre-ville de Trois-Rivières, là, un hôtel avec du bois, puis quelque chose dessus, puis mettre le feu pour brûler ça. Là. Ça se fait plus, ça. C'est plus à la mode. Qu'est-ce qui est à la mode, par contre? C'est de mettre nos idoles dans nos cœurs. C'est d'avoir nos idoles dans nos cœurs. C'est ça qui fonctionne. Et regardez dans Ézéchiel, dans le livre d'Ézéchiel, Dieu sait très bien où y vont les idoles. Ézéchiel, chapitre 14 et au verset 3. Ézéchiel 14, 3 nous dit, j'attends que les pages aient fini de virer pour que vous puissiez lire vous aussi, parce que c'est important. Fils de l'homme, ces gens-là portent leur idole dans leur cœur. Et ils attachent leur regard sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Me laisserai-je consulter par eux? Les idoles, leur place de prédilection, c'est dans le cœur. Et je vous garantis que le cœur humain est une fabrique d'idoles. Ils en font à répétition des idoles. Et ils changent d'idoles. Et ils les jumellent. Et ils les amalgament. Et ils font toutes sortes de choses avec les idoles. On sait que l'idole prend la place de Dieu. On connaît certaines choses qui sont devenues des idoles. L'argent, le travail, le loisir, l'orgueil. Ce sont tous des idoles. Notre sœur dit la cigarette. Oui. Ce sont tous des idoles. Mais est-ce que c'est ces choses-là qui sont ces idoles? Ou c'est l'importance que l'on lui porte, que l'on met dans ces choses-là qui sont des idoles? Moi, l'argent, j'ai rien contre, là. Je prendrais les chèques n'importe quand. Là. Mais quelle importance que je mets à l'argent? Le travail, j'ai rien contre. Il faut travailler. Pas trop, mais il faut travailler. Mais quelle importance que je mets au travail? Et quelle place que je mets au travail dans ma vie? C'est l'importance que nous mettons dans les choses qui font que ce sont des idoles. Et l'idole la plus difficile à trouver, c'est celle que nous avons dans notre cœur. C'est très facile de trouver l'idole, je suis capable facilement de trouver votre idole. Ça, c'est sûr, facile, facile. Mais mon idole à moi, oh, c'est difficile. L'idole peut prendre toutes sortes de formes. La peur des hommes qui nous empêche d'annoncer l'Évangile, la paresse qui nous empêche de servir, l'activisme qui fait en sorte qu'on fait plein de choses que notre cœur n'y est pas vraiment. Plein de choses. J'avais dans mon PowerPoint, j'avais la présentation de deux livres. « Lorsque les hommes sont plus grands que Dieu » et « L'idole de votre cœur » de Timothy Keller, puis « Quand les hommes sont plus grands que Dieu » de Thomas Reck. David se ferait un plaisir de vous les montrer et de vous les vendre si vous vouliez les acheter et si vous voulez aller plus loin dans le système des idoles. Si vous avez un péché dans votre vie dans lequel vous luttez continuellement, cherchez l'idole qui se cache derrière cela. On a tous des idoles dans nos vies. Tout le monde. J'en ai, vous en avez. Et récemment, j'en ai découvert une que j'avais aucune idée que j'avais. Le Seigneur me l'a montré. Dieu prend les moyens pour nous aider à nous affranchir de nos idoles. Parfois, il prend des moyens radicaux. Parfois, il prend des moyens plus extrêmes. Et parfois, il prend des moyens qui sont en douceur. Abraham, qui avait comme idole son fils Isaac, lui a demandé de l'immoler. Le roi de Babylone, qui avait comme idole sa propre personne, il se voyait plus grand que tout le monde. Il avait accompli énormément de choses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il le fait manger comme une vase dans un sein pendant 7 ans de temps. Dieu peut faire ce qu'il veut et il sait comment nous débarrasser de nos idoles. Jachée, qui avait comme idole l'argent, s'est volontairement débarrassé de cette idole en accueillant Jésus dans sa maison. Il n'a pas eu besoin de quelque chose de dramatique pour faire comprendre à quelque part à Jachée que l'argent n'était pas une idole, n'était pas bon à idolâtrer. Si vous voulez une définition de l'idolâtrie, c'est un système utilisé par un homme pour assurer sa sécurité, sa prospérité et son identité. Lorsque j'aurai 200 000 $ dans mes poches, je serai en sécurité. Lorsque j'aurai accompli telle chose, je serai prospère. C'est une idole. Pourtant, Dieu peut nous donner tout cela. Dieu demande 2 choses à Gédéon. Là. Premièrement, il demande de détruire l'autel aux idoles. Première chose. Mais il demande aussi de rebâtir un autel selon les règles que Dieu avait établies. Ça nous dit quoi? Il ne suffit pas de détruire les idoles de notre cœur. Il faut le remplacer par la véritable personne qui mérite toute louange et toute gloire, par Dieu, dans nos vies. Je peux bien dire, je vais arrêter telle chose, mais si je ne la remplace pas par Dieu, il va y avoir un manque dans ma vie. Je dois remplir ça par Dieu lui-même. Une idole prend beaucoup de place dans le cœur des gens. Et Gédéon, par crainte de s'attirer la colère du village, décide de détruire l'idole de nuit. C'est un wise. Il voulait réussir à finir sa job, parce que j'imagine que s'il fait ça à 5 heures de l'après-midi, quand tout le monde est dehors, il était pour se faire lapider directement. Les personnes tiennent beaucoup à leur idole. C'est difficile de faire changer les idoles des cœurs des gens. Mais quand même, Gédéon passe aux actes, il détruit l'idole et il monte une autel à Dieu. Et il est reconnu comme un héros et ils vont même lui donner un surnom qui va s'appeler Jérubal, qui se bat contre les idoles, qui tient tête aux idoles. Gédéon a une victoire. Et mettre Dieu en premier, c'est vraiment victorieux. Jérubal, Gédéon, rassemble toute une armée. Parce que Dieu a dit à quelque part qu'il était pour avoir la victoire sur les Madians. Donc, la vision de Gédéon, c'était de monter une armée. Mais encore confus de sa place, il demande une autre preuve. Et c'est de ça qu'on se rappelle de Gédéon. Lorsqu'il dit quelque part, « Je voudrais que la terre soit sec et que la toison soit mouillée. » Et il dit ensuite, « Attends une minute, ça ne marche pas mon affaire, parce que lorsque la toison est sur le sol, elle attire toute l'eau. Donc, c'est normal que la terre soit sec puis la toison soit mouillée. » Mais le contraire, par exemple, c'est un vrai miracle. « Je voudrais que la terre soit mouillé et que la toison soit sec. » Et Dieu s'exécute. Dieu fait ce que Gédéon lui a demandé. Pourquoi Dieu l'a fait? Dieu ne répond pas toujours à ça. Je ne sais pas si vous êtes arrivé, mais ça m'est arrivé à moi de dire à Dieu, « Dieu, fais ça pour moi, puis je vais faire ça pour toi. » Bien souvent, ça n'a pas marché. Ça a peut-être marché une fois, au tout début de la vie chrétienne. Mais même quand il l'a fait par après, je disais, oh, je ne recommencerai pas ça. Parce que je me suis engagé à faire de quoi pour Dieu maintenant. Mais Dieu l'a fait pour Gédéon. Et qu'est-ce qu'il faut voir dans ça? C'est qu'il faut voir la compassion de Dieu. Dieu a compassion de son serviteur. Il sait de quoi il est fait. Et il est capable de répondre à ça pour lui donner du courage. Pour lui montrer qu'il est vraiment à sa place. Est-ce que Dieu vous a déjà montré que vous étiez réellement à votre place? Sûrement. Sûrement que Dieu vous a, à quelque part, à travers la parole de Dieu, à travers ce qu'il a fait dans votre vie, vous dit, je suis vraiment à ma place. Et c'est ce que Dieu a fait. Il s'est préoccupé de calmer les doutes de son serviteur. Surtout que la tâche était absolument énorme. Gédéon avait réussi à lever une armée de 32 000 hommes. C'est déjà beaucoup. Sauf que c'était des hommes assez inexpérimentés. C'était des hommes qui étaient plus des voyageurs, ils arrivaient dans le pays, c'était des agriculteurs, ils n'étaient pas armés comme ils devraient être. Et ils s'attaquaient à une armée de 135 000 hommes. Le ratio n'est pas tout à fait habitué au combat. Ça fait 7 ans qu'ils attaquent. Ils ont déjà combattu. Ils savent c'est quoi. Ils sont bien armés et ils ont des chameaux en quantité innombrable. Gédéon avait besoin d'un soutien. Et Dieu a répondu à ce soutien-là. Gloire à Dieu. Et on est rendu au chapitre 7 de Juges. Au verset 2. J'ai mentionné ce verset-là au départ. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourra en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. » Dieu utilise la situation avec les Madianites pour enseigner son peuple une leçon mémorable de dépendance en lui. Mémorable. Le peuple a besoin de comprendre. La gloire revient à Dieu, la puissance lui appartient. Elle n'appartient à personne d'autre, ni aux Madian, ni à personne d'autre. Ils doivent en arriver à craindre Dieu, parce que s'ils craignent Dieu, ils n'auront pas à craindre aucun peuple, aucun homme, aucune tribu, rien. Celui qui craint Dieu ne craint plus autre chose. Dieu enlève toute crainte lorsqu'on le craint, lui. Il est important que le peuple de Dieu comprenne cela. Il est important que les Juifs de ce temps-là comprennent ça. Et il est important aussi que le peuple que Dieu s'est acquis avec son sang comprenne c'est quoi la crainte de Dieu. Et je pourrais développer. Je pourrais aller plus loin, sauf que le temps me manque. Mais vous pourriez vous développer quelle est la crainte de Dieu. C'est quoi ça, craindre Dieu? Ce serait intéressant, surtout si vous voulez croître dans la connaissance de Dieu. Ce serait un sujet à aller loin. Gédéon avait une vision de la manière d'obtenir la victoire. Mais Dieu avait d'autres plans. Dieu avait d'autres choses. Dieu disait, attends une minute. Je vais m'occuper de la sélection de l'armée. Tu vois, ça va fonctionner. 32 000, on enlève 20 000. Ouais, mais ils sont encore 135 000, l'autre bord, là. Ah, c'est encore trop. On va diminuer ça à 300. 300 hommes qui comptent 135 000 bien armés. Militairement, là, ça ne marche pas, là. Mais Gédéon dit, OK, c'est toi qui mènes. Et Dieu veut lui montrer autre chose. Il n'a pas juste fait de la sélection de l'armée, il a décidé d'encourager et de fortifier Gédéon. Et Gédéon a dit, va avec ton serviteur, va dans le camp des Madianites, puis écoute qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que tu vas entendre. Et Gédéon entend un soldat madianite qui qui explique un rêve à son ami. Puis il dit, un pain d'orge qui va arriver sur la tente et qui va bousculer la tente, qui va faire en sorte que tout va tomber. Puis là, l'autre, il dit, oh, wow, c'est sûrement Gédéon. Le pain d'orge qui représente la pauvreté, et dans ce temps-là, les Israélites étaient pauvres, c'est sûrement Gédéon. La réaction de Gédéon, c'est qu'il se prosterne au verset 15 du Matthieu, de Juges 7. Et au verset 15, lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna. L'Éternel avait compris ce que Gédéon avait besoin. L'Éternel a toujours compris ce qu'on avait besoin. Mais Gédéon avait compris qu'est-ce que l'Éternel voulait faire avec. Non seulement Gédéon aimait la présence de Dieu, mais maintenant il pouvait voir l'action de Dieu dans sa vie. Il pouvait voir ce que Dieu avait fait. Et ce pas de foi-là, qui est cité dans les psaumes 27, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Et dans Romains 8, 31, il dit, « Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? » Et cette force qu'il a, maintenant, Gédéon a compris ce qu'il pouvait faire, ce que Dieu pouvait faire avec lui. Il a transmis à ses 300 hommes qui foncent sur les Madianites avec cette seule arme, la foi de ce que Dieu avait dit. C'était la seule arme qu'il avait. Il n'y en avait pas d'autre. Un cruchon, un flambeau, un corps et la foi en Dieu. Gédéon était devenu ce guerrier valeureux que Dieu voulait faire. Il réussit par cela à mettre la confusion à travers le camp des Midianites qui se tuent entre eux. C'est un exploit. C'est un miracle. Ils se tuent entre eux. Je n'ai même pas besoin de sortir mon épée et tout se fait. C'est Dieu qui le fait. Naturellement, les oppositions arrivent et on est rendu au chapitre 8 de Juges. Et les hommes d'Éphraïm, qui est un peuple juif aussi, commencent à argumenter contre Gédéon en disant « Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as parti la guerre puis tu ne nous as même pas appelés. On n'aura pas la gloire que l'on mérite parce qu'on n'a rien fait. » Ah ouais, tu n'as pas compris le plan de Dieu. Mais Gédéon qui répond très sage, il va dire « Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que le vendange d'Abiézer? Est-ce que vous n'avez pas fait quelque chose de plus grand encore que moi? Vous avez réussi à avoir des chefs de Madian, Horeb et Zeb. Ils rappellent les choses. » Et ça me rappelle un verset qui disait dans Philippiens 2:3, « Ne fais rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Ce que j'aime, c'est que le verset a une application et il y a un résultat. Le problème est arrêté là. Il se peut. Gédéon aurait pu dire, « Hey là, non, hey, j'ai vécu, tu n'avais pas d'affaire là, c'est moi qui étais le meilleur. » Non. Il a décidé de prendre une place en dessous en disant, « Tu es le meilleur. Tu fais de plus grandes choses que moi. Et je vais prendre la place qui est en dessous. » Et habituellement, ça arrête toute guerre et toute colère. Et par la suite, Gédéon demande de l'aide à deux villes, Succot et Pénuel. Succot et Pénuel ont décidé de prendre position contre Gédéon. Ils ont peur des Madianites. Ils ont peur des représailles parce que les rois des Madianites ne sont pas enfermés encore. Ils courent encore dans le champ. Mais ils disent, si les rois y reviennent, ils vont nous massacrer si on vous aide. Donc, on décide de ne pas vous aider. C'est la position qu'ils prennent. Ces deux villes-là ont décidé, à quelque part, qu'ils n'étaient pas, pas pour être partie prenante avec Gédéon. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Que les décisions que l'on prend ont des conséquences. toutes les décisions qu'on prend ont des conséquences. Parfois, des conséquences bonnes sur les bonnes décisions et des conséquences malheureuses sur des mauvaises décisions. Dieu n'enlève pas les conséquences de nos décisions, parce que c'est un Dieu juste. On a un Dieu d'amour et un Dieu juste. Il n'enlèvera pas les conséquences sur les mauvaises décisions. Les personnes qui vont avoir assumé ces mauvaises décisions-là, si celui qui refuse Christ, celui qui refuse de croire Dieu, il va avoir des conséquences dans sa vie. Ou celui qui abandonne l'œuvre de Dieu, celui qui délaisse Dieu après avoir fait un temps, va avoir des conséquences. Mais je suis content de cela. Parce que si Dieu n'enlève pas les conséquences des mauvaises décisions, il n'enlève pas non plus les conséquences des bonnes décisions que l'on peut prendre. Et je lui rends gloire de cela. Gédéon revient en héros et face à la demande des hommes d'Israël de dominer sur eux, il dit au verset 23 de Juges 8, Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Et, ah, quelle belle phrase de Gédéon! Mais j'aimerais tellement que l'histoire s'arrête là. J'aimerais que ça arrête. Mais ça ne s'arrête pas là, malheureusement. La fin prend une autre tournure. D'abord, il prélève l'or des hommes de son armée. Et il en fait un éphode. Un éphode, c'est un manteau. Okay? C'est un manteau que les sacrificateurs portaient, les saints sacrificateurs portaient pour connaître la volonté de Dieu, les révélations divines. C'est un éphode. Et Gédéon décide de faire un éphode en or, donnant environ une cinquantaine de livres d'or pour faire un manteau en or et le mettre sur un stall dans sa ville. Que ce soit vu par tout le monde. Et cet éphode-là, le texte nous dit qu'il est devenu un piège pour Gédéon, pour sa maison et pour tout Israël. Un piège. Cette pièce de vêtement-là associée aux révélations divines. Pourquoi? Pourquoi faire un éphode? Drôle de choix. Pourquoi la placer à la vue de tous, en or et dans sa ville? Est-ce qu'il cherchait à créer un nouveau canal de communication? C'est ambigu. À quel endroit Dieu a mis sa direction dans cette prise de décision-là? Où est-ce que Dieu a été intervenu là? Si Dieu a intervenu tout le long, année jusqu'à date, là, il s'est-tu? Pourquoi? Dieu ne forcera pas Gédéon. Il ne mettra pas le dos dans le dos à terre en cassant le bras en disant « Non, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. » Gédéon a une certaine liberté d'action, comme nous. Une autre déception. Gédéon Gédéon a pris plusieurs femmes. Malgré que Dieu ait averti de ne pas faire cela, plus particulièrement dans Deutéronome 17:17, c'était les rois n'avaient pas à prendre plusieurs femmes. Et Gédéon l'a pris quand même, ce droit-là. Finalement, dernière interrogation, le nom de son fils, du seul fils que Gédéon a mentionné, Abimélec, qui a fait un carnage par après, mais la signification du mot Abimélec, c'est « mon père est roi ». C'était la signification d'Abimélec. Imaginez, je ne sais pas combien de fois par jour vous dites le nom de vos enfants. OK? Mais supposons que ma fille, ma plus vieille, je peux la mentionner probablement tous les jours. Bien, à tous les jours que les gens entendaient le nom d'Abimélec, ils entendaient « mon père est roi ». Pourtant, il avait dit au verset 23 qu'il... C'est un peu bizarre. C'est la fin de sa vie. Il a accompli d'énormes choses pour Dieu. Mais Gédéon a été un homme utile à l'œuvre de Dieu. Il a été mentionné comme héros de la foi dans Hébreux. Ses exploits sont mentionnés dans les psaumes. Il a accompli, par son humilité et par son obéissance, de grandes choses. À la suite des actions de Gédéon, il y a eu 40 ans de paix, et c'est la dernière fois que c'est mentionné dans le livre des Juges. Dieu désirait que les Madianites soient mis à terre, soit cessent d'être une puissance destructrice, et qu'ils soient humiliés, et ça a été accompli par Gédéon. Gédéon lui-même a vécu des temps de grâce avec Dieu. Il a réalisé sa présence continuelle lors de la rencontre avec l'ange. Il a réalisé la bénédiction d'être utilisé par Dieu lorsqu'il a entendu le songe du soldat. Il a accompli d'énormes choses avec 300 hommes. Il a porté la confusion et il a tué 15 000 hommes pour aller chercher les rois des Madianites. Avec 300 hommes. Dieu a tenu ses engagements auprès de lui. Mais voilà le problème de Gédéon. Un homme reconnu pour son humilité a terminé son parcours avec orgueil et dissimulation. Il a très mal géré le succès et la bénédiction. C'est reconnu, c'est plus difficile de gérer la bénédiction dans notre vie, gérer spirituellement la bénédiction, que l'épreuve. Et un verset me venait en tête, lorsque je lisais ça, dans Hébreux 13, 7, lorsqu'il disait, « Nos conducteurs, il nous est dit de considérer la fin de leur vie, la fin de leur vie, et d'imiter leur foi. » Tout le monde est capable de commencer un parcours, absolument tout le monde. Mais le terminer, c'est un autre, de la bonne manière, c'est autre chose. Gédéon n'est pas le seul à avoir tombé comme ça. Salomon, un homme de grande sagesse, a été pris avec des concubines à pu finir. Probablement qu'il y a le record du monde, puis il n'y a personne qui a réussi à le détrôner. Abraham, un homme de foi, a mis en doute la protection de Dieu en faisant passer sa femme pour sa sœur. On réalise entre le verset 23 et le verset 27 qu'il s'est produit de quoi dans la tête de Gédéon. Et vous savez, encore une citation de M. Descartes, « L'homme le plus intelligent dans son village, à M. Descartes, c'était son tailleur. Parce que à chaque fois qu'il le voyait, il le mesurait. Il reprenait ses mesures. » Entre le verset 23 et le verset 27, si on avait mesuré le cœur de Gédéon, on aurait vu une différence. Et chaque homme, c'est la même chose. Dieu, à travers Gédéon, m'a enseigné beaucoup de choses. J'ai compris énormément de choses. Ce que Dieu a fait avec Gédéon, il peut faire les mêmes actions, les actions de même valeur dans ma vie. Il peut faire la même chose. Mais comme Gédéon, si moi, ou tout homme sur terre, ne se surveille pas, nous pouvons aussi prendre le même chemin. Personne n'est plus grand ni plus petit que Gédéon. Comme Paul disait de Élie, qui était un homme de même nature, on pourrait dire la même chose de Gédéon. En conclusion, il y a une phrase de Jonathan Edwards qui résumerait bien. Un homme agit toujours, à un moment donné, conformément à ce qu'il désire le plus à ce moment donné. Maintenant, qu'est-ce qu'on désire le plus comme chrétien? Nous ou la gloire de Dieu? Seigneur Dieu, je te remercie, je te rends gloire de ce que tu fais en nous, de ce que tu fais de nous et de ce que tu veux faire avec nous. Seigneur, nous ne voulons pas t'ignorer, nous ne voulons pas marcher dans nos propres forces, nous ne voulons pas faire des pas par nous-mêmes, mais nous voulons les faire en dépendance de toi. Seigneur, donne-nous cette humilité que Gédéon a eue au début de sa vie. Donne-nous cette obéissance que Gédéon a eue au début de sa vie. Laisse-nous voir ta face. Laisse-nous contempler, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire avec nous. Laisse-nous voir ta grâce dans nos vies et que l'on puisse avancer confiant, Seigneur, que toi, tu es celui qui est au départ, tu es celui qui est à la fin et tu es celui qui va nous accompagner jusque dans l'éternité pour ta gloire et pour ton nom, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.